Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Je crois que nous avons besoin de personnes qui viennent de tous les horizons. Je pense vraiment que tout le monde devrait pouvoir se présenter. Il y a 10 ans, en Islande, tous les députés étaient des avocats. Je préfère largement avoir un parlement composé de plombiers, d'artistes ou d'infirmiers.
Un électeur du Parti pirate islandais que les sondages donnent vainqueur des élections législatives de samedi. Le parti libertaire contestataire pourrait obtenir plus de 20% des voix, arriver devant les partis traditionnels. Une excellente nouvelle pour sa présidente, l'artiste, députée, militante de Wikileaks, Birgitta Jónsdóttir, qui se voit bien prendre la tête du Parlement.
Je me sens vraiment bien. Avec les autres députés, nous étions encore au Parlement il y a une semaine et aujourd'hui, peu importe le résultat de ces élections, ce sera dans tous les cas une grande victoire pour les pirates. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, nous avions obtenu 5%. Nous avions réussi à rassembler tellement de monde, en particulier les jeunes électeurs. Donc maintenant, chaque nouvelle personne que nous parvenons à transformer en citoyen engagé, c'est une victoire.
Et les élections de ce samedi sont des élections anticipées car le scandale des Panama Papers a poussé celui qui était Premier ministre à démissionner, le président à ne pas se représenter. Un scandale qui a décrédibilisé une partie de la classe politique et peut-être renforcé le jeune parti pirate.
Ils apportent du sang neuf dans la classe politique et même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, je pense qu'il faut leur laisser une chance.
Le parti pirate, une réponse à la crise démocratique que traversent les sociétés européennes. L'Islande, île perdue à l'extrême nord de l'océan Atlantique, est-elle un laboratoire de la démocratie? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 3 invités. Elisa Lewis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente du collectif qui s'intitule Démocratie ouverte. Vous êtes par ailleurs co-auteur avec Romain, je vais essayer de bien le prononcer, Slitin. Donc d'un livre qui s'appelle « Coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie », un livre qui est paru aux éditions de La Découverte. Deuxième invité, Philippe Crevel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des îles, alors pas particulièrement de l'Islande, mais des
îles. Des économies insulaires.
Voilà, et vous êtes par ailleurs le directeur du Centre de l'Épargne. Troisième invité, Thomas Watanabe-Vermorel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole du Parti Pirate français. Alors Thomas Watanabe-Vermorel, ma première question, elle sera pour vous. Ça vous fait rêver, j'imagine, ce qui se prépare en Islande?
Oui, oui, ça nous fait rêver, ça nous enthousiasme. À nous, à 1 an en fait des législatives françaises, qui sont évidemment un grand rendez-vous pour nous, voir les victoires pirates de par le monde, c'est évidemment très, très enthousiasmant.
Vous y voyez un signal pour 2017, c'est ce que vous nous dites?
Oui.
Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, vous allez, parce que le Parti Pirate en France n'a pas d'élu, n'en a jamais eu, je crois, vous allez vous présenter dans toutes les circonscriptions pour les législatives?
Alors, en 2012, on avait été présent sur 101 des circonscriptions. Évidemment, là, notre but, c'est de tapisser entièrement la France. Alors, soit à titre vraiment Parti Pirate, soit avec des candidatures citoyennes. Parce qu'on va aussi donner les moyens à des citoyens non encartés de se présenter plus facilement.
Oui, parce que c'est quand même l'un des principes de ce parti, c'est de faire accéder à la politique tous les citoyens. Juste pour revenir à l'Islande, puisque c'est quand même le sujet de notre débat, on reviendra à la France après évidemment. À quoi vous attribuez le succès du parti pirate qui se profile en Islande aujourd'hui?
Bon, il y a la culture du Nord qui ne supporte pas la corruption, qui ne supporte pas les manquements éthiques, et pour une forte raison, parce que le Parti Pirate est très à cheval sur les questions éthiques et les questions de transparence. Donc évidemment, là, il y a un idéal qui se retrouve entre un peuple et une proposition du Parti Pirate. En France, il y a quelque chose d'un petit peu, au contraire, blasé, soumis à ces choses-là. Donc là, ce sont des marqueurs à faire bouger, évidemment, dans la société. Je pense qu'il y a ça. Il y a évidemment les aspects complètement institutionnels. En France, là encore, on a d'énormes entraves institutionnelles pour l'émergence de partis. Je pense notamment au financement de la vie publique,
alors
qui est très différent
en Islande. Alors qu'en Islande, il n'y a pas tous ces obstacles?
Non, le Parti Pirate, justement, en Islande, a été le parti le plus financé par l'organe public.
Elisa Lewis, pour vous, ce qui se prépare, ce qui se passe depuis quelques années, hein, puisque c'est pas nouveau non plus en Islande, ça relève du modèle pour vous. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi, dans votre tour du monde des expériences, de vous arrêter en Islande?
Nous, on a réalisé ce tour du monde dans le cadre de ce livre, Le coup d'État citoyen,
partant du constat qu'il y a une fatigue démocratique, un ras-le-bol de la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et qu'il faut dépasser ces constats-là pour aller sur le terrain des solutions, des alternatives. On a besoin de renouveau, on a besoin de souffler, on a besoin d'oxygène en démocratie. Et on a effectivement trouvé que l'Islande pouvait être un formidable était en fait un formidable laboratoire d'innovation démocratique à plusieurs titres, puisque en réalité la percée spectaculaire annoncée du parti pirate en Islande, c'est la suite d'une longue histoire d'expérimentation démocratique en Islande qui a débuté très fortement suite à la crise en 2008 avec la première constitution rédigée directement par des citoyens à travers un mécanisme absolument inédit pour l'histoire de nos démocraties modernes.
Et c'est l'un des enjeux évidemment du scrutin de samedi que de voir si cette constitution va pouvoir être adoptée.
Exactement, cette constitution donc qui pour rappel avait été écrite d'abord par une assemblée de 1000 citoyens tirés au sort, puis par un comité constitutionnel composé de 25 là aussi citoyens ordinaires dans le sens où ils n'étaient pas encartés, ils n'avaient pas de responsabilité politique, qui a été largement plébiscité par référendum par la suite puisque 67% des Islandais se sont prononcés favorablement pour cette nouvelle constitution qui d'ailleurs était une promesse depuis plus de 50 ans de l'ensemble des gouvernements qui se faisaient réélire et sur laquelle ils n'avaient jamais réussi à donner suite. Et là, on voit que la force citoyenne, l'engagement des citoyens sur une question qui est pourtant éminemment complexe, hein, celle d'une constitution, ça permet d'aboutir à des résultats là où la classe politique avait échoué depuis plusieurs années. Et c'est en effet un des engagements très forts aujourd'hui du Parti Pirate qui est de dire nous allons faire appliquer cette constitution inédite pour l'histoire de nos démocraties occidentales.
Et le parti s'en donne les moyens, puisqu'il faut le dire, hein, c'est un scrutin proportionnel, 20% ça suffirait pas à prendre le pouvoir, et aujourd'hui on a appris que le parti pirate pourrait s'associer, enfin s'associera en cas de victoire avec trois autres partis d'opposition, Mouvement Gauche Vert, Sociaux-Démocrates et Avenir Radieux, les centristes. Philippe Crevel, votre regard sur ce phénomène islandais, de ce parti pirate islandais, pour vous, c'est le fruit d'une histoire, c'est parce qu'aussi c'est un pays du Nord. Comment vous lisez ce qui se passe ?
Il y a évidemment une question déjà de géographie. Une île, c'est un lieu clos, c'est un territoire qui est évidemment entouré d'eau, c'est 320 000 personnes. 320 000 personnes, c'est évidemment une communauté réduite qui facilite évidemment l'émergence de partis, on va dire, donc qui sortent un peu de nulle part, mais qui globalement vont pouvoir très vite s'enraciner dans la population. C'est pas 65 millions d'habitants comme en France, c'est pas 300 millions comme aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile.
C'est 330 000 effectivement.
Voilà, 330 000. Et c'est vrai que c'est, en plus, il y a pas les mêmes règles de financement de la vie politique. Donc il y a le côté insulaire qui joue un rôle très important. Deuxième aspect, ça a été signalé, c'est évidemment la crise économique de 2008, qui est un vrai révélateur, c'est le fait qu'à ce moment-là, par référendum, la population a rejeté un accord qui avait été signé par le Parlement, par le gouvernement, avec donc le Royaume-Uni, avec les Pays-Bas, pour rembourser donc les ressortissants britanniques et néerlandais par rapport aux sommes qu'ils avaient investies dans les banques qui avaient fait faillite justement au moment de la crise financière.
Alors, car il faut le dire, parce que l'Islande, c'est une puissance bancaire.
C'est une plateforme bancaire. Elle a été au cœur de ce qui s'appelle les subprimes. Et donc, elle a payé relativement cher économiquement. Et là, il y a eu un divorce entre l'opinion politique, l'opinion publique et la classe politique. Et qui a abouti donc à cette série de référendums, cette série de votes qui a entraîné, c'est vrai, l'émergence d'un mouvement citoyen qui n'existait pas auparavant. Mais on voit que la réaction aujourd'hui citoyenne, c'est vrai qu'elle n'est pas que islandaise. Elle est également en Europe. On voit la montée de votes extrémistes. Alors, je ne mettrai pas, évidemment, les pirates sur la même longueur d'onde.
Merci.
Voilà. Que les mouvements extrémistes, en revanche,
sur l'adhésion
de la population au mouvement pirate, on va retrouver des éléments qui sont similaires par rapport à un vote extrémiste en France, quel qu'il soit, ou un vote extrémiste en Allemagne. Et si on regarde de manière un peu plus large, Podemos en Espagne également, hein, est issu de la crise, est issu d'une révolte citoyenne par rapport à une classe politique traditionnelle qui est donc aujourd'hui considérée comme responsable de la situation économique. Et donc, l'opinion veut sanctionner la classe politique.
Donc, à choc économique majeur, réponse extraordinaire. C'est un peu ce que vous nous dites.
Tout à fait.
Alors, Thomas Watanabe Vermorel, vous voulez peut-être répondre. Est-ce que pour vous aussi, l'explication, elle se situe au niveau de 2008, ça a été un tournant majeur ?
Je pense que oui, la plupart comme le disait Birgitta justement, c'est dans les cas de crise que on peut.
Birgitta Jónsdóttir, la chef du parti pirate islandais, tout le monde ne la connaît pas.
Exactement, excusez-moi.
Pas encore,
ça va venir. C'est dans les moments de crise qu'évidemment les choses sont en mesure de bouger, parce que sinon on est installé dans un quotidien et donc évidemment c'est beaucoup plus difficile de faire changer les choses. Je vais un petit peu modérer les propos de mon interlocuteur. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement radical. Dans le parti pirate, ça oui, on peut le dire.
Ça vous le revendiquez.
Ça on revendique et cette contestation, mais pas que, cette construction radicale que l'on veut faire, ça fait partie des choses qui sont générées quand le monde tremble quoi. Effectivement, en 2008, le monde a tremblé en Islande.
Mais alors, le monde n'a pas tremblé qu'en Islande, en France. Je relance la question. Ça a moins tremblé, mais ça a tout de même tremblé. Pourquoi est-ce que là, le parti pirate français, ça a pas appris?
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entraves institutionnelles et médiatiques en France qui n'ont certainement pas.
Donc, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre.
Oui, on n'a pas forcément les moyens de se faire entendre, pas autant. En 2008, d'ailleurs, le Parti Pirate en France, il venait juste d'apparaître.
Elisa Lewis, depuis 2008, vous voyez un réveil en Islande ou bien ce terreau, vous l'avez aussi constaté ailleurs dans votre tour du monde des expériences néo-démocratiques?
C'est évident, il y a un terreau quand même un petit peu spécifique en Islande qui est lié à la taille du territoire, qui est lié à cette crise qui a fait l'effet d'un électrochoc. Et il y a un condensé évidemment d'innovation démocratique très fort en Islande sur la constitution, sur l'émergence de nouveaux partis, sur la politique locale. On a vu... Il y a un mandat, un maire qui était davantage connu pour ses talents de comédien que pour ses talents de politique émergé à Reykjavik. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier à l'Islande. Mais en réalité, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une effervescence démocratique qui traverse l'ensemble des démocraties occidentales en crise, qui passe bien souvent et malheureusement sous le radar et médiatique et politique. Mais on a alors un petit peu eu connaissance de cette constitution islandaise, mais il y a eu d'autres démarches similaires en Irlande, par exemple, où en 2013, ils ont revu la constitution à travers une assemblée composée à la fois de citoyens tirés au sort, mais aussi d'élus représentants de l'ensemble des partis irlandais.
Et ça France aussi, dans l'est de la France, on a lancé pour des dernières élections aussi, on a fait une tentative en tirant au sort des citoyens. Des élections locales.
Pour construire des listes municipales. À tous les niveaux, ces expériences émergent. Elles fonctionnent plus ou moins. En Irlande, il y a eu une modification de la constitution, notamment afin de légaliser le mariage homosexuel, qui est issu des recommandations de cette assemblée atypique de ce partage du pouvoir et citoyen et politique. Et il y a vraiment... je pense que là, aujourd'hui, on est à un tournant. On se rend bien compte que la démocratie telle qu'elle fonctionne depuis 200 ans, avec ce modèle qui a finalement assimilé la démocratie à la possibilité d'élire des représentants une fois tous les 5 ans, ça ne convainc plus, ça ne marche plus. C'est fondamental, que ce soit l'élection, le monopole des partis politiques sur la vie politique, ne fonctionne plus et on doit rechercher des alternatives. Et la réalité, c'est qu'il existe un champ d'innovation extraordinaire en politique dont on n'a pas conscience et je pense dont on a très peu conscience, particulièrement en France. Et au-delà des barrières institutionnelles et financières, il y a aussi une responsabilité qu'on a chacun de prendre conscience que la démocratie, c'est pas quelque chose qui nous est extérieur. La démocratie, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est notre pouvoir d'agir en tant que citoyen. Et on a un rôle à jouer dans cette réinvention politique.
Alors c'est intéressant, vous nous parliez tout à l'heure de l'exemple irlandais, l'Irlande qui est aussi une île. Alors je voudrais revenir avec vous, Philippe Crevel, sur ce phénomène insulaire. Est-ce que vous, qui les étudiez, ces économies insulaires, ces îles, ces sociétés aussi, vous avez constaté ailleurs quelque chose qui vous fait penser à l'Islande ?
On peut regarder tout près de chez nous ce qui se passe en Corse aujourd'hui avec la victoire, donc, pour la première fois des nationalistes au mois de décembre donc 2015 aux élections régionales, avec un programme qui est pas forcément l'indépendance pour tout de suite, mais l'indépendance, je veux dire, à 5 ou 10 ans, et qui a été clairement exprimée, et qui a reçu donc 30% des voix, a été quand même pas vu justement par la presse, par le gouvernement, qui a été très étonné de voir que le mouvement nationaliste, certes, qui est présent en Corse depuis des années, mais on se disait, ben voilà, c'est un parti minoritaire qui est là pour emmerder, mais qui n'est pas là pour faire le système, est devenu aujourd'hui le parti qui dirige la région et qui a décidé justement de mettre au cœur de sa stratégie la transparence, de jouer à fond les citoyens contre les régimes de partis traditionnels, parce qu'en Corse, les partis traditionnels, justement, occupaient la place de manière un peu, on va dire, entre guillemets, clanique. Et là, le nouveau parti, nous, on va avoir une démarche extrêmement citoyenne. Et ça revient un petit peu aux discussions qu'on a entendues à l'instant, de mouvements qui viennent de la base, avec de nouvelles façons de faire de la politique. Et c'est vrai qu'une île, eh ben, comme on est sur un espace clos, avec moins d'habitants, c'est plus facile à organiser que sur un pays comme la France, où par définition, il y a des conservatismes. Et on voit qu'en France, en plus, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, il y a une nécessité d'être, on va dire, d'avoir passé pas mal d'étapes pour devenir homme politique. Il faut avoir une vingtaine, une trentaine d'années. On n'arrive pas du jour au lendemain à être homme politique ou femme politique. Il faut passer étape par étape. On voit ce qui se passe en Italie avec le mouvement 5 étoiles. On voit ce qui se passe également donc en Islande, où justement des personnes qui sont issues de la vie citoyenne, qui sont responsables de la société civile, arrivent à prendre des fonctions de maire, de député. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai changement. Et on peut estimer qu'il y a, c'est vrai, une remise en cause des modèles de sélection des responsables politiques à l'heure actuelle.
Alors Thomas Watanabe-Merwell, je voudrais quand même qu'on dise un mot du programme du Parti Pirate, qui est quand même parti d'enjeux du net, alors je ne sais pas trop comment les qualifier, de la neutralité de l'Internet, pour ensuite eh bien, se prolonger. Alors comment est-ce qu'on prolonge la neutralité du net dans par exemple, la sphère économique? Quel est le programme économique du Parti Pirate?
Alors en fait, comment on prolonge le maître mot, c'est la question de la liberté. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc après ça, sur les libertés, et notamment sur le plan économique, c'est vraiment des mots qui peuvent avoir beaucoup d'acceptation.
Alors par exemple, les brevets, je crois.
Voilà, nous on est alors. Si je fais très rapidement le programme général, c'est tout ce qui va être des droits fondamentaux, les droits de l'homme, tout ce qui va être du partage de la connaissance, de la culture, du bien commun. Et puis la rénovation démocratique dont on parle depuis tout à l'heure. Sur la question des brevets, pour nous, c'est effectivement l'idée que le domaine intellectuel, c'est quand même un bien commun qu'il faut favoriser, qui est le bien de l'humanité. Alors évidemment, il faut faire vivre la recherche, évidemment, il faut faire vivre la création. Donc il y a une réflexion sur les financements, sur les droits d'auteur, etc. On n'est pas contre les droits d'auteur. Mais en revanche, ça ne doit pas être complètement financiarisé, complètement clos, et ça ne doit pas. Il faut réfléchir en termes de bien commun. D'autant plus que c'est comme ça que c'est sur le plan économique aussi qu'on apporte du dynamisme en permettant des innovations, des entrepreneuriats, etc. Donc c'est pas voilà notre idée, c'est de quand on bloque tout, quand on verrouille tout, on favorise uniquement une petite population, ceux qui possèdent déjà tout, et au détriment de tous. Au contraire, il faut plus de fluidité. Et ça améliore tout, y compris sur le secteur économique.
Alors sur ces fondamentaux économiques, Philippe Crevel, quel regard vous portez sur ces grands principes? Est-ce qu'ils vont être efficaces? Est-ce qu'ils vont être bénéfiques? Alors on a déjà plus qu'une minute trente, mais est-ce qu'ils vont être bénéfiques à l'économie islandaise?
Alors premièrement, l'Islande, c'est un pays qui repose, on va dire, sur quatre grands secteurs d'activité: l'agriculture et la pêche, le traitement de l'aluminium via l'électricité pas chère, et le tourisme et la banque, le secteur financier, et se développe justement une économie numérique depuis plusieurs années. Et donc c'est vrai que là-dessus, ça permet aux pirates justement de s'appuyer sur le développement du numérique en Islande pour dire, vous voyez, c'est un secteur majeur et il faut le développer. Et c'est justement leur cœur, évidemment, au niveau de leur programme. Après, ils sont également pour les 35 heures. Là, c'est une vieille... on pourra peut-être les conseiller en la matière.
C'est un autre débat.
Voilà. Après, leur
Mais
problème...
Mais en gros, oui ou non, vous oui, le craignez ou pas,
oui,
ce programme?
Oui, évidemment, le seul problème, c'est qu'il faut évidemment qu'ils dépassent leur seul secteur numérique. Parce que quand on est justement en charge d'un pays, on doit évidemment se consacrer à l'ensemble du pays.
Un dernier mot pour finir. Elisa Lewis, pour vous, quelle est la mesure la plus importante si le parti islandais pirate atteint le pouvoir?
C'est vraiment la spécificité du parti pirate islandais qui a justement su se positionner sur l'ensemble des thèmes des thèmes de société.
Et c'est laquelle la mesure?
Et notamment la démocratie, faire appliquer cette constitution et puis porter l'augmentation de la participation des citoyens dans la vie politique.
Merci beaucoup à tous les trois, Elisa Lewis, Philippe Crevel, Thomas Watanabe-Merwell. Merci à Sigrid Azerwal, Hélène Avril, Margot Emmerich qui est allée balader son micro à Reykjavik. Merci également à la documentation.
RFI présente l'orchestre.